Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, bonjour à tous. Le cours commence une fois de plus par l'annonce d'une publication, mais c'est la dernière fois d'ici un temps assez long. Donc, c'est une période de vendange. Donc, ce livre-là, c'est le résultat du séminaire d'il y a 2 ans. Sous forme de colloque. Donc, il faisait un point sur cette notion de solidarité à partir de 3 entrées qui étaient une entrée plutôt généalogique et historique dans la tradition occidentale, une autre qui examine le concept de solidarité au prisme de différentes civilisations, que ce soit l'Inde, la Chine, l'Afrique, etc. Et puis, toute une dernière partie sur l'actualité du principe dans les évolutions juridiques d'un certain nombre de régions du monde, y compris l'Europe. Donc, nous nous étions quittés la dernière fois sur l'évocation de Proudhon et aussi de l'œuvre de d'Amartya Sen, pardon, dont je vous avais dit qu'il s'agissait vraiment d'une contribution très significative à l'idée de la justice qui... À la différence des approches de type de celle de Rawls ou Dworkin, ne part pas d'une conception a priori transcendantale de la justice pour l'appliquer ensuite au système juridique, mais au contraire, qui tente de partir de l'observation des pratiques. En revanche, cette théorie de la justice d'Amartya Sen laisse dans l'ombre la question du travail proprement dit. Le souci d'Amartya Sen est principalement de réfléchir aux moyens de combattre les injustices dont souffrent les classes défavorisées des pays dits en développement. Il tente de faire une économie du développement et il ne s'intéresse pas vraiment aux questions qui sont nées du changement technique ni des formes contemporaines de l'oppression. Alors, après avoir fait cette espèce de panorama des théories de la justice de ces 30 dernières années, on peut se demander qu'est-ce que l'analyse juridique peut apporter à ces approches dont vous avez vu qu'elles sont le fait de philosophes ou d'économistes principalement, mais où les juristes sont absents. Eh bien, on peut penser que l'analyse juridique est l'un des moyens de comprendre la manière dont ces questions peuvent ou ne peuvent pas être abordées dans la pratique. Et pour aborder ainsi, au moyen d'analyse juridique, la question de la justice, on ne peut pas se limiter, de la justice sociale, on ne peut pas se limiter au seul droit du travail. Les salariés ne sont pas les seuls, en effet, dont la capacité d'agir et de maîtriser leur destin se trouve menacée, car cette menace pèse aussi sur les entreprises et les États, comme nous l'avons vu dans les cours des années précédentes. Tous sont pris dans les raies de la gouvernance par les nombres, et tous sont le théâtre de luttes qui visent à rendre aux hommes la possibilité de penser et d'agir, et pas seulement de calculer et de réagir. Donc c'est cette très large focale que nous allons adopter dans la suite du cours pour aborder la question de la justice sociale internationale. D'une part, en ne se focalisant pas sur l'une des 3 dimensions de la justice sociale que nous avons reconnues, mais en nous efforçant de les aborder toutes les 3, c'est-à-dire la justice distributive, la justice recognitive et la question de la juste division du travail. Et d'autre part, en n'envisageant pas le travail dans sa seule dimension individuelle, donc la justice sociale envisagée sous l'angle du statut du travailleur, mais aussi sous l'angle collectif, ce qui implique de s'intéresser donc au statut de l'entreprise et à ce que Robert Reich a appelé le travail des nations. Et vu sous cet angle, la question de la justice sociale intéresse donc autant le droit civil, le droit commercial et le droit international que le droit du travail. Donc voilà un petit peu le programme de la suite dont je vous ai dit d'entrée de jeu que ça continuera lors du cours de l'année prochaine. Et notamment, je pense, l'année prochaine, on s'intéressera davantage à l'entrée par le droit commercial des questions de la justice sociale. Pour l'heure, donc, nous allons pouvoir passer au deuxième chapitre du cours sur l'étude de la mise en œuvre historique, comment ça s'est passé, cette mise en œuvre de l'idée de justice sociale internationale. Et dans ce chapitre, on va étudier quelques moments cruciaux dans l'histoire juridique de la justice sociale depuis le XIXe siècle, en commençant par les prémices et la figure qui est souvent citée tout au début du récit des origines des pratiques de justice sociale, c'est celle d'un industriel et philanthrope britannique, Robert Owen, et c'est de fait à lui qu'on doit reconnaître la paternité de l'idée de législation ouvrière internationale. Owen possédait donc des usines et il a passé sa vie à promouvoir dans ces usines l'éducation des ouvriers, des salaires satisfaisants, et il a souhaité généraliser ce qui pour lui avait valeur de modèle. Il a donc appelé à l'adoption des premières lois de protection des travailleurs au Royaume-Uni. C'est à lui que l'on doit notamment d'avoir lancé dès 1817 le mot d'ordre 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, qui allait devenir le slogan de la Première Internationale et du mouvement ouvrier français, comme vous pouvez le voir sur cette couverture de l'assiette au beurre dessinée par le grand dessinateur Paul Grandjouan. Alors, Owen s'est aussi préoccupé d'étendre cette protection au-delà des frontières du Royaume-Uni. Il ne l'a pas fait pour des raisons de concurrence. Nous allons voir que ces questions de règles sociales internationales sont toujours le lieu d'une tension entre, disons, une aspiration morale ou idéaliste ou philanthropique et puis des considérations plus pratiques d'égalisation de la concurrence au plan international. Dans le cas de Owen, c'est clairement sur la première ligne qu'il se situait. C'est d'abord, j'allais dire, quoique britannique, c'est un idéaliste, mais ça serait une pure provocation, c'est un idéaliste qui est animé par le désir de voir advenir ce qu'il appelait un nouveau monde moral. C'est le titre de son principal ouvrage, « A New Moral World », et où il explique ceci: « Je ne connais pas ces divisions et ces différences imaginaires que les frontières tracent de peuple à peuple. Est-ce qu'une créature raisonnable pourrait nous dire pourquoi une partie de l'humanité doit être destinée à mépriser, à haïr, à détruire les autres ?» Donc, nous sommes dans cette perspective philanthropique et c'est pourquoi il plaidera pour, de façon très active, pour l'adoption de quelques règles sociales internationales. Et donc, je dois dire que la figure de Owen est extrêmement sympathique et c'est un homme qui pense qu'il peut agir sur l'histoire, donc il prend son stylo, sa plume, et il écrit en 1818 au plénipotentiaire de la Sainte Alliance qui sont réunis à Aix-la-Chapelle, et qui donc représente le cœur du pouvoir dans l'Europe après la défaite de l'Empire napoléonien. Et il envoie une longue lettre où il décrit la paupérisation en cours. On est au début du mouvement de la paupérisation de temps entier des populations dans les pays en voie d'industrialisation, donc des masses ouvrières, et il plaide pour une extension des mesures d'éducation et de protection qu'il pratique dans sa propre entreprise. Et vous allez voir que tout de suite, cette scène originelle, si je puis dire, des débats sur la législation sociale internationale, tous les acteurs se trouvent présents, puisqu'il reçoit une réponse de M. Friedrich von Gentz, donc un noble prussien, un aristocrate prussien, qui était le conseiller de Metternich, et qui lui répond par une lettre qu'elle mérite de la franchise et qui continue d'éclairer la question du droit social international. Il lui répond ceci: « Nous ne souhaitons nullement que les masses deviennent aisées et indépendantes de nous. Comment pourrions-nous alors les dominer ?» Bon, ça a le mérite, je le répète, de la franchise. Donc vous voyez que le pauvre Owen ne s'est pas fait entendre de la Sainte Alliance. Un autre précurseur de la justice sociale internationale, dont on peut retenir le nom, fut l'industriel suisse Daniel Legrand. On peut retenir son nom parce que si l'OIT est à Genève et si les organisations internationales sont à Genève, c'est un petit peu à des hommes comme Legrand qu'on le doit. Lui aussi, c'est un industriel, philanthrope, et il ne cesse d'intervenir vainement auprès des principaux gouvernements européens en vue de l'adoption d'un premier projet de loi international qui limiterait à 12 heures par jour le fonctionnement des moteurs mécaniques. C'est très intéressant parce que ce pourquoi il plaide, Legrand, c'est donc pas une réglementation des contrats, mais c'est une limitation dans l'usage de l'outil industriel. Alors, les initiatives de ce type se sont multipliées durant la seconde moitié du XIXe siècle, au fur et à mesure que les effets destructeurs de la paupérisation des classes ouvrières se faisaient de plus en plus visibles. Et en 1889, l'empereur Guillaume II réunit à Berlin une conférence internationale, c'est la première du genre, qui était destinée à arrêter des règles communes relatives au travail des femmes et des enfants et aux industries dangereuses. Alors, cette conférence, c'est une première, elle n'aboutit pas à des mesures normatives contraignantes, mais elle débouche sur de simples recommandations. Cela dit, elle est importante parce que c'est elle qui engage une dynamique, c'est à partir de cette conférence que va naître l'idée, puis ensuite la création, d'une association qui voit le jour en 1900, qui s'appelle l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs. Cette association internationale réunissait des universitaires. Alors, dans le cas des juristes français, il s'agissait de Paul Pick, dont les spécialistes du droit du travail savent qu'il est l'auteur de l'un des tout premiers traités de législation, ce qu'on appelait la législation industrielle à l'époque. Donc, il y a des universitaires et il y a des représentants des offices nationaux du travail. C'est-à-dire, il y a des hauts fonctionnaires en charge des questions de travail dans les différents pays. C'est international, mais en réalité, c'est à l'échelle européenne que ça se joue. Et cette association avait deux buts principaux. Le premier, qui était de réunir des informations sur l'évolution des législations du travail dans les pays européens, et d'autre part, de discuter les bases de traités internationaux, en commençant par l'interdiction, c'était les deux priorités, du travail de nuit des femmes et les questions de sécurité dans les industries insalubres. Je souligne ces deux points parce que pourquoi les questions de travail des enfants, de travail des femmes et d'industrie insalubre se trouvent vraiment au début du dispositif, c'est parce que ce que met en jeu la surexploitation des forces de travail, ce sont les ressources physiques d'une nation. Et dans la plupart des pays européens, les états-majors militaires ont joué un rôle puissant pour alerter les pouvoirs publics dans les risques que faisait courir la dégradation des conditions physiques de personnes qui n'étaient soit plus en condition de porter les armes, dans le cas des hommes, soit qui mettaient au monde des enfants chétifs ou des enfants qui, à leur tour, ne pourraient pas porter les armes ou ne pas enfanter des enfants de bonne qualité. Donc on a, vous vous souvenez aussi, on est dans ce contexte, la naissance de l'eugénisme. Donc il y a une grande préoccupation sur ces effets physiques. Et de fait, on peut considérer que les questions de santé et de sécurité au travail ont toujours été le noyau dur, et elles demeurent, du droit du travail. C'est-à-dire quand il y a l'enjeu de survie physique, soit immédiate, soit sur la reproduction. C'est dans ce contexte qu'à la même époque furent conclus les tout premiers traités bilatéraux du travail entre pays européens. Alors, il faut le noter parce que nous le verrons beaucoup plus tard, peut-être d'ailleurs qu'à l'automne prochain. C'est aujourd'hui sous cette forme que l'on voit se développer un certain nombre de règles sociales internationales, c'est davantage dans des traités bilatéraux. Et ces traités bilatéraux, le premier du genre a été le traité franco-italien de 1904. La France, elle, se souciait de la concurrence des travailleurs italiens à bas coût. On était dans une problématique qui était un petit peu comparable à celle qui peut être celle maintenant du travailleur polonais. Et la négociation a abouti à ce que la France accorde aux ouvriers immigrés italiens un meilleur accès aux assurances sociales. En contrepartie de quoi, l'Italie s'engageait à se doter d'une véritable inspection du travail et à développer sa législation sociale, notamment en matière de durée du travail. Donc c'était l'idée de limiter les conditions d'une concurrence qui porterait sur des mauvaises conditions de travail. Alors d'autres accords du même type ont été signés, par exemple entre l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, qui visaient à coordonner la protection des travailleurs contre les accidents du travail. Et c'est l'époque où les législations sur les accidents du travail fleurissent, enfin c'est entre 1880 et 1905 que presque tous les pays européens se dotent des législations contre les accidents du travail qui, elles, vont être vraiment le noyau dur des systèmes d'assurance sociale par la suite et donc sur le long terme de la sécurité sociale. Voilà à peu près les débuts. Et on en est là au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. En fait, avant la Première Guerre mondiale, seules deux conventions internationales avaient été adoptées, toutes deux à Berne, le 26 septembre 1906. Alors, comme ce sont les premières espèces du genre, c'est intéressant de voir sur quoi elles portaient, la première convention interdisait l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes. La manipulation du phosphore blanc occasionne une grave maladie professionnelle qui s'appelle la nécrose phosphorique. Alors, les descriptions cliniques ne sont pas très agréables parce que ça s'attaque aux dents et à la mâchoire, ça défigure les victimes avant de s'étendre à tout le système osseux. Et donc, ça condamnait à une mort extrêmement lente et douloureuse, comme on voit sur les paquets de cigarettes. Tous les ingrédients, ce qui est intéressant dans la négociation de cette toute première convention internationale, qui porte donc sur un objet qu'on pourrait juger microscopique, c'est que quand on reprend les conditions de négociation de cette convention, on y voit tous les ingrédients des argumentaires, si je puis dire, qui continuent d'environner la moindre initiative sociale internationale. D'abord, l'opposition des pays producteurs. C'était le cas au début du Royaume-Uni et de la Suède, les fameuses allumettes suédoises. Donc, comme c'était eux qui fabriquaient le produit, le même qu'ensuite on aura les gens qui disent « l'amiante, c'est bon pour les poumons », enfin, on a entendu ça. Donc, il ne faut pas mettre en péril nos industries nationales par des réglementations trop contraignantes. Ou on va le dire en France aujourd'hui à propos de ce qu'on appelle l'industrie bancaire, un usage un peu métaphorique du mot industrie. Donc il y a une opposition à toute initiative internationale qui pourrait mettre en péril certains groupes qui sont en position dans tel ou tel pays, évidemment, d'influencer le gouvernement. Donc on trouve aussi le lobbying des industriels qui minimise les risques, qui finance des experts qui viennent expliquer que finalement le phosphore blanc, c'est pas si méchant que ça, etc. Et puis on retrouve aussi le lien structurel du commerce et du social, puisque l'opposition du Royaume-Uni est levée dès qu'elle a la garantie que les allumettes phosphoriques de ses rivaux ne viendront plus faire concurrence aux siennes sur ses marchés et les marchés neutres. Donc à ce moment-là, son objection est levée. Voilà, cette première convention est intéressante de ce point de vue, sous ses effets de lobby et le lien que l'on voit bien dans la pratique des négociations entre les questions commerciales, industrielles et les questions sociales. L'autre convention qui a été adoptée le même jour, elle aussi mérite d'être notée, puisqu'elle interdisait le travail de nuit des femmes dans l'industrie. C'est la toute première convention internationale. Et elle aussi, si on reprend les conditions de son adoption, on s'aperçoit que on se croirait aujourd'hui dans les types d'arguments échangés. Cette adoption dut vaincre en effet une série d'objections qui sont les mêmes qu'on voit ressurgir aujourd'hui en faveur d'un démantèlement de la réglementation du temps de travail en général et du travail de l'interdiction du travail de nuit en particulier, puisque dans le contexte, on y reviendra, d'appel à la mobilisation totale, vous savez, les pressions qui sont faites pour qu'on autorise le travail le dimanche, la nuit, donc c'est l'idée de travailler 24 heures sur 24. Donc cet argument apparaît dès 1906, et avec des arguments, là aussi, très modernes, si je puis dire, où on pourrait dire que les arguments contemporains n'ont rien de moderne. Vous prenez ça dans le sens que vous voulez. Par exemple, argument, les ouvrières qui travaillent la nuit le font de leur plein gré. Et mieux vaut le travail de nuit que le chômage. Bon, tout le monde peut être d'accord là-dessus. Les industries concernées seront exposées au dumping des pays qui n'adopteront pas une semblable interdiction. Si on n'ouvre pas le dimanche, les Chinois vont aller acheter à Londres. Donc vous avez le même type d'argument aujourd'hui. La limitation du temps d'utilisation des machines est un facteur de coût supplémentaire. Donc si on empêche le travail de nuit, les machines, on les amortit moins facilement, parce que du coup, les machines sont à l'arrêt la nuit, ce que souhaitait Daniel Legrand. Et puis, le dernier argument, qui était ultra moderne pour l'époque, il faut le reconnaître, et qui a empêché l'adhésion par la Suède, enfin ça a retardé, la Suède a été très longue à signer cette convention, c'est que cette interdiction serait contraire au principe d'égalité entre hommes et femmes. Et c'est donc cet argument a entraîné une mobilisation des associations féministes en Suède qui a conduit à l'échec d'une première tentative de ratification par le Parlement suédois. Alors, c'est cet argument qui aura, si je puis dire, la peau de cette convention internationale très longtemps après, devant la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt Stöckel, qui va déclarer les règles d'interdiction du travail de nuit discriminatoires, ce qui a conduit l'OIT à revoir cette convention qui était la première de son patrimoine, si je puis dire. Et ce qui a conduit à ce que, j'ai dû citer ces chiffres, je crois me souvenir l'année dernière, que le nombre de femmes travaillant la nuit a augmenté de 100% durant les 15 dernières années. Et le nombre d'hommes de 30%. Alors, vous voyez, on pourrait dire, si l'objectif est de limiter le travail de nuit, il faudrait que l'interdiction soit étendue aux deux sexes, sous réserve des cas où le travail de nuit est indispensable. Mais c'est pas du tout ça qui s'est joué dans, au fond, le démantèlement de ce qui était la toute première convention internationale du travail qui est survenue un siècle plus tard. La négociation de ces conventions donne lieu aussi à des débats sur les sanctions de ces conventions internationales. Comment sanctionner? Si on se met d'accord au plan international sur des règles aussi simples, par exemple, on interdit des industries très dangereuses ou on interdit des durées de travail trop grandes ou le travail de la nuit, comment on va sanctionner ça dans les rapports entre États? Alors, il y a eu trois thèses qui se sont affrontées. La première thèse, qui était d'un certain côté la plus audacieuse, consistait à transposer au plan international les mécanismes qui avaient commencé d'être mis en œuvre au plan interne pour assurer l'effectivité du droit du travail. Et certains auteurs ont plaidé pour la création d'une inspection internationale du travail qui aurait été dotée de pouvoirs d'investigation dans les entreprises liées par le traité. Donc, vous voyez, les États ratifient, prennent des engagements internationaux, on crée un corps d'inspection internationale qui va pouvoir accéder aux entreprises dans les différents pays et vérifier la bonne application du traité. Un peu moins radical, mais malgré tout très réformateur, le gouvernement anglais proposa de créer, dans le même esprit, une commission internationale qui serait susceptible de recevoir des dénonciations et de diligenter des enquêtes. Et les Anglais ont aussi proposé d'instituer un tribunal d'arbitrage international qui aurait été compétent pour connaître des allégations de violation d'un traité. Alors ça, c'est une idée aussi qui est promise à... pas vraiment une mise en œuvre, enfin partiellement. Vous allez voir que c'est autour de ces la mise en place d'organes de ce type que va se jouer une vingtaine d'années plus tard, la création de, une quinzaine d'années plus tard, la création de l'OIT. Comment avoir une instance tierce qui peut entendre des plaintes en cas de violation des engagements. Donc, là, c'est une première voie pour organiser des sanctions. On crée des dispositifs, des instances internationales qui vont pouvoir contrôler et juger des infractions. Une deuxième voie, deuxième thèse, consistait à reconnaître aux États un droit de rétorsion commerciale en cas de violation des traités du travail. C'est-à-dire, moi, je me suis engagé à ne pas fabriquer d'allumettes d'un certain type, et donc j'en fabrique d'autres qui sont plus chères sur mon marché. Si vous, vous ne vous pliez pas à cette règle, eh bien, je vais frapper vos produits d'un droit de douane qui va rétablir les conditions d'une concurrence équitable. Alors, ça aussi, cette approche a été ensuite l'objet de très nombreux débats sur lesquels on reviendra. C'est ce qu'on appelle les débats sur la clause sociale des traités du commerce, c'est-à-dire, et qui peut valoir aussi pour les questions d'environnement, c'est-à-dire, bon, soit vous êtes libre, vous ne vous pliez pas aux mêmes règles que nous en matière de protection de l'environnement ou des hommes, mais du coup, il ne faut pas que vous espériez que les produits qui ont été fabriqués en méconnaissance de règles qui nous paraissent des règles de base du point de vue social ou environnemental, nous allons les laisser venir concurrencer nos propres produits. Donc c'est une deuxième approche qui permet des rétorsions. Alors, cette solution a été critiquée par ceux qui entendaient fonder le droit international du travail sur des principes de défense de la personne et non pas sur des considérations de distorsion de la concurrence. Bon. C'est-à-dire ceux qui disaient la vraie raison de ces normes, c'est pas d'avoir une concurrence à égalité, mais c'est qu'il faut partout protéger. Alors eux, ils proposaient plutôt une troisième voie, qui était une approche incitative, c'est-à-dire qui combinerait la pression morale sur les pays ne respectant pas les traités et une assistance internationale apportée pour leur mise en œuvre aux pays qui les ratifient. C'est une méthode douce, hein. Ce qu'on appelle alors dans le franglais le shaming, on va faire honte à ceux, faire appel au sentiment de la honte devient un exercice de plus en plus improbable, mais on va faire honte donc aux États qui traitent mal leur population et on va aider en revanche ceux qui s'engagent dans des processus vertueux. Nous verrons que c'est globalement l'orientation qui a été prise par l'OIT, même si les choses sont quand même beaucoup plus compliquées. Le centre de gravité de l'action de l'OIT est de l'ordre d'une action persuasive, et non pas de rétorsion. Alors, voilà ce qui se passe donc au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ce déclenchement, bien sûr, vient suspendre le mouvement engagé d'une collaboration internationale pour fixer des règles communes. Mais en même temps, la guerre a contribué à en précipiter le cours. Aussitôt, la paix revenue. Cela pour beaucoup de raisons, que certaines nous avons déjà évoquées dans les cours d'années précédentes, c'est-à-dire en particulier la Première Guerre mondiale voit une généralisation des méthodes du taylorisme, voit les pays faire appel massivement à une main-d'œuvre féminine qui donc sort de la sphère domestique et va avoir ses propres revendications. Donc c'est le monde salarial moderne qui se met ainsi en place. Et puis d'autre part, les massacres sans précédent dont la Première Guerre mondiale a été le théâtre donnaient crédit à l'aspiration à l'internationalisme qui avait été mis en échec par son déclenchement, puisque la guerre de 14 est une trahison de la promesse internationaliste qui était commune normalement aux partis ouvriers des différents pays européens. Vous avez ici un dessin qui est publié le 16 mars 1919, donc à la fin de la guerre, dans un hebdomadaire qui s'appelait Le Miroir, qui témoigne bien de cette aspiration, c'est ce que nous ne devons plus jamais revoir. Donc c'est un monde ensanglanté et c'est assez remarquable parce que ce qui est assez remarquable, c'est qu'on a tous les pays, les vainqueurs et les vaincus sont montrés ici comme des victimes de ce qui vient de se passer, d'où l'idée qu'il y a quand même un intérêt commun des nations à construire un ordre international qui éviterait la répétition de massacres aussi déments. Quand je parle de massacres déments, enfin, il faut rappeler qu'on estime 18,5 millions le nombre de tués, dont près de 10 millions de militaires, 21 millions le nombre de blessés de guerre, et pour la France seule, elle a perdu 1,5 million de jeunes gens, et plus de 4 millions sont revenus du front blessés ou gravement estropiés. Et ces chiffres sont 2 millions de soldats tués pour l'Allemagne et 1,8 million pour la Russie. Donc c'est des coupes claires dans des générations entières. Et en fait, c'est dès le début de ce bain de sang, et alors que les États-Unis n'étaient pas encore engagés dans le conflit, qu'initiative est prise par la Fédération américaine du travail, qui se réunit en congrès, devinez où, à Philadelphie, déjà, on n'est pas en 44, hein, on est en 1914. Et elle adopte une résolution qui appelle à la réunion des représentants des travailleurs de tous les pays, en même temps et au même lieu que la conférence de la paix, c'est-à-dire on pense en novembre 14 que la guerre va se terminer dans quelques mois, qu'il y aura une conférence de paix, et donc le mouvement syndical américain dit qu'il faut convoquer, en même temps que cette conférence de paix, une conférence internationale du travail qui pourra présenter des propositions et prendre les mesures nécessaires pour le rétablissement, je cite là, des relations fraternelles et la protection des intérêts des travailleurs et contribuer ainsi à poser les bases d'une paix plus durable. Donc, vous voyez l'expression sur laquelle j'insiste souvent et sur laquelle on va revenir, d'ailleurs, qui est dans le préambule de la Constitution de l'OIT, qui lie justice sociale et paix durable. Sa première occurrence, c'est dans cet appel des syndicalistes américains en 1914. C'est un peu plus tard, 2 ans plus tard, en juillet 2016, il y a une conférence réunie à Leeds, au Royaume-Uni, des dirigeants syndicaux des pays alliés, dont le secrétaire général de la CGT de l'époque, qui était Léon Jouot. Et cette conférence aboutit à 3 revendications en vue du futur traité de paix. Alors, ces 3 revendications sont les suivantes. La première, mettre hors des atteintes de la concurrence capitaliste, je cite là, hein, mettre hors des atteintes de la concurrence capitaliste internationale et assurer à la classe ouvrière de tous les pays un minimum de garanties d'ordre moral et matériel relatives aux droits du travail, aux droits syndicaux, aux migrations, aux assurances sociales, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité du travail. Donc on a une liste de questions dont on dit qu'il faut que ce soit mis hors concurrence commerciale internationale. Deuxième proposition, constituer une commission internationale qui sera chargée de surveiller le respect de ces règles et qui comprendra à cet effet un tribunal international d'arbitrage. On voit réapparaître cette idée britannique d'avoir un tribunal international au plan social. Et enfin, troisième proposition, la création d'un office international du travail qui serait chargé de recevoir des rapports sur l'adoption de ces règles et de conduire des enquêtes sur leur mise en œuvre et de normaliser les statistiques, de procéder à des études comparatives sur l'évolution et la législation et les conventions du travail. Là, cette troisième mission, c'est en fait une institutionnalisation de l'Association internationale d'études du travail que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est née à la fin du 1900. Alors, l'ampleur des sacrifices qui avaient été exigés et infligés aux classes populaires et aussi la menace d'une extension de la révolution bolchévique de 1917 ont conduit les négociateurs du traité de Versailles à prendre ces revendications au sérieux. Donc on a inscrit sur l'agenda de la négociation à Versailles les revendications qui avaient été élaborées en 1916 par les syndicalistes et aussi les propositions faites par les syndicats américains en 1914. Et avant même la fin de la guerre, donc une réflexion parlementaire a été engagée au Royaume-Uni en France. En France, c'était sous l'égide de Léon Bourgeois, vous savez, l'auteur du livre sur le solidarisme. Et l'un des résultats les plus remarquables de ces travaux parlementaires fut le projet qui a surtout été avancé par les Britanniques, alors pour des raisons que je pourrais vous expliquer si j'avais le temps, mais je n'ai pas le temps, pourquoi ça vient des Britanniques, cette idée, proposition d'associer les représentants syndicaux et patronaux à ceux des gouvernements au sein d'une organisation internationale habilitée à préparer des conventions internationales du travail. Donc là, c'est l'idée du tripartisme qui va être fondamentale dans la conception de l'OIT. Ici aussi, idée anglaise. Bon, quand même, je prends une minute pour vous dire pourquoi ça vient d'Angleterre. Parce que le modèle britannique de droit du travail, si l'on peut dire, c'est de concevoir ce droit du travail comme les conditions de régulation collective d'un marché particulier qui est le marché du travail. Donc, pour les Britanniques, il ne s'agit pas que l'État intervienne lui-même pour définir quelles doivent être les règles applicables à la relation de travail, mais de créer les conditions collectives d'une négociation équilibrée entre les forces économiques présentes sur ce marché. C'est ça le modèle britannique. C'est le modèle qu'a démantelé Mme Thatcher en disant non, il faut supprimer ces négociations collectives pour revenir à de la négociation individuelle. Et donc, à partir du moment où vous concevez de cette façon la régulation du travail, eh bien, l'État est en retrait. Il est simplement le garant du bon fonctionnement de ce système. D'où la proposition du tripartisme. C'est ainsi donc que va naître l'Organisation internationale du travail. Parce que toutes ces propositions ont été reprises, discutées par la Commission de la législation internationale du travail, instituée dans le cadre de la conférence de la paix qui s'ouvrit donc à Versailles en janvier 1919. Et c'est cette commission qui a élaboré les dispositions de la partie 13 du traité de paix. Et c'est dans cette partie 13 du traité de paix que vous allez trouver le texte, toujours actuel, de la constitution de l'OIT. Et la discussion, alors, je ne vais pas vous raconter le détail de la négociation, même si c'est assez intéressant, il y a des travaux historiques assez approfondis là-dessus, mais... Je vous mentionne juste la discussion sur l'élaboration des premières phrases du préambule. C'est toujours très important, le début. La délégation britannique avait proposé de rédiger le premier attendu de ce préambule de la façon suivante. Attendu que la SDN, donc la Société des Nations, a pour but d'établir une paix universelle et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la prospérité et du contentement de toutes les classes dans tous les pays. Ça devait commencer comme ça. Et j'y insiste parce que dans cette formulation, vous le voyez, le mot de justice sociale n'apparaît pas. La paix a pour base la prospérité et le contentement de toutes les classes dans tous les pays, pas la notion de justice. Et la définition de ce fondement fut finalement modifiée et raccourcie et c'est devenu sur la base de la justice sociale. Et c'est ainsi que le concept moderne de justice sociale a été pour la première fois en 1919 consacré en droit international et c'est ainsi qu'il figure toujours en tête du préambule de la Constitution de l'OIT qui est ainsi rédigé, donc qu'on a déjà évoqué, attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Jeter un coup d'œil aussi à l'alinéa 3. La non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. On a très longuement, l'année dernière, commenté ce petit segment de phrase « Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ?» Ce qui nous intéresse plus cette année, évidemment, c'est l'idée de la non-adoption par une nation, mais en péril. Parce que là, on est sur les questions de comment on va faire pour avoir une règle du jeu qui soit commune à tous les pays. Et le lien qui était ainsi établi entre justice sociale et paix entre les nations sera réaffirmé à la fin de la Seconde Guerre mondiale par la déclaration de Philadelphie, selon laquelle, en 1914, l'expérience a pleinement démontré le bien fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de l'OIT, d'après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale. Alors, je ne saurais trop insister sur l'importance de cette référence à l'expérience. Ça devrait nous retenir un petit moment, enfin, aujourd'hui, puis au début du cours suivant. En effet, la justice sociale n'a pas seulement été affirmée en droit international comme un idéal un devoir moral qui pèserait sur les nations et devrait contrebalancer le réalisme politique et économique. C'est comme ça qu'on a tendance à le voir. Il y a les réalistes et il y a les rêveurs. Et les réalistes font de l'économie et les rêveurs pensent à la justice sociale. Non, en réalité, quand la notion de justice sociale émerge en droit international, c'est à chaque fois, sur des monceaux de cadavres. Comme on les a vus sur l'image là, tout à l'heure de l'hebdomadaire le miroir. C'est-à-dire que la justice sociale se réclame elle-même du réalisme, ou plus exactement de l'expérience historique qui toujours voit l'humiliation et la misère de masse engendrer la haine et la violence. Et violence qui, à deux reprises au cours du XXe siècle, a dépassé les bornes de l'imaginable. Donc on retrouve ici, au fond, à l'échelle internationale, un vieil interdit que j'ai dû évoquer, qui est l'interdit de la pléonexie. Si vous vous rappelez de ça, la pléonexie, c'est un interdit de l'accumulation illimitée par certains des richesses. Et cet interdit est très bien illustré par l'histoire du roi Midas. Vous connaissez l'histoire du roi Midas. Alors, il y a plusieurs histoires. Ce Midas était un personnage impayable. Alors mais la plus connue, c'est que je ne sais plus quel service il rend à Dionysos. Peut-être il le prend en autostop. Enfin non, ça ne doit pas être ça. Et Dionysos lui dit « Fais-moi un vœu ». Je fais un vœu et je l'exauce. Et alors, il est bête et cupide. Donc, il est très humain, en fait, Midas. Il est bête et cupide et il dit, ce que je voudrais, c'est que tout ce que je touche se transforme en or. Vous vous souvenez de ça? Et aussitôt dit, aussitôt fait. Et tellement content qu'il veut arroser ça. Et hop, la bouteille d'eau se transforme en or. Et il veut manger, il se transforme en or. Il veut toucher ses esclaves qui le fuient parce qu'ils ne veulent pas être transformés en or, et il se retrouve seul, sur un tas d'or. Bon. Et alors, dans cette situation très fâcheuse, où il va mourir de faim, tout simplement, assis sur son or, seul, sans aucun secours, il implore Dionysos, qui revient, qui lui dit « Alors, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais il dit « Ça ne va pas. Bon, alors, que faire ?» Alors, c'est bon. Dionysos exauce le second vœu, et il dit à Midas, va te baigner dans le fleuve Pactole, que tu vas remonter. Et c'est pour ça que le fleuve Pactole, ça fait le Pactole, parce que tout l'or, ensuite, ce fleuve charrie des paillettes d'or, etc. Alors, on a ici, dans les mythologies grecques, un récit qui résume bien à quoi condamne l'idée de l'accumulation sans frein des richesses matérielles. Ça veut dire que ceux qui ne trouvent pas en eux même les limites de cette accumulation seront contraints de les trouver hors d'eux-mêmes. Ça, mes yeux, c'est une observation importante. Ceux qui n'arrivent pas à se fixer des limites en eux-mêmes les trouvent toujours hors d'eux-mêmes. Et ça conduit à une notion qui, si j'avais le temps, je développerais davantage, qui est la notion de souveraineté de la limite. C'est quelque chose qui est un petit peu évoqué chez Simone Weil lorsqu'elle essaie de pointer l'irréalisme des nazis. Il y a un petit texte dans lequel Simone Weil commente ce passage de Hitler, un discours de Hitler, qu'on a évoqué d'ailleurs déjà, où Hitler dit, mais après tout, partout dans la nature, ce qu'on observe, c'est que le plus fort l'emporte sur le plus faible. Les plus grosses planètes ont un effet d'attraction plus important que les petites. Les gros animaux mangent les petits. Les gros poissons mangent les petits. Donc pourquoi ça serait différent chez les êtres humains? Vous savez que c'est un thème qui, depuis Calliclès, on dit les vraies lois de la nature, c'est que le fort l'emporte sur le faible. Bon. Et Simone Weil, qui est quand même impressionné par l'argument, dit non, mais c'est qu'il n'a pas pris le temps de regarder les étoiles. Hitler, d'ailleurs, on peut penser qu'il ne veut peut-être pas être très contemplatif. Parce qu'il aurait vu que, justement, même les plus grosses étoiles elles ne sortent jamais du cercle qu'il aurait assigné. Ce qui est donc souverain, c'est la limite. Et cette réflexion me paraît très importante, parce que l'expérience historique montre que les violences les plus meurtrières, donc l'exercice le plus débridé de la force, se terminent toujours, cet exercice finit toujours par se consumer lui-même. Et c'est ce qui justifie l'idée que ce qui est souverain, ce n'est pas la force, mais c'est la limite. Alors, si j'aimerais avoir le temps d'approfondir, je vais le faire un petit peu, mais c'est pour que toutes ces précautions oratoires, pour vous excusiez le caractère un peu expéditif de ce que je vais dire à ce sujet. C'est important pour comprendre la place structurale du droit dans notre rapport à trois choses que Karl Polanyi a appelées des marchandises fictives. Polanyi, dans son livre « La grande transformation » puis dans d'autres écrits, explique que ce qui est le propre du capitalisme, ce n'est pas du tout l'économie de marché, parce que l'économie de marché, historiquement, ça existe depuis très longtemps. Le propre du capitalisme, ça consistait à traiter trois choses comme si c'était des marchandises, des produits, alors que ce ne sont pas des marchandises. Donc, Polanyi appelle ça des marchandises fictives. Ces trois choses, c'est la terre, donc la nature, le travail humain et la monnaie. Et ces trois éléments ne sont pas des produits. Il n'y a pas des usines qui fabriquent la terre, ou il n'y a pas des usines qui fabriquent le travail humain et sa compétence. Et il y a sans doute des usines qui fabriquent du papier-monnaie, mais vous savez que la monnaie ne se réduit pas au papier. C'est un signe qui soude une collectivité, ça repose sur des mécanismes de croyance. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Or, on va faire comme si c'était des marchandises, à partir du capitalisme. Donc on va dire qu'il y a un marché du travail, de même qu'il y aurait un marché des petits pois ou des voitures. Et il y a un marché immobilier. Et puis, le dernier pas qu'on a accompli à partir de 1971, on dit on laisse flotter les monnaies, c'est-à-dire les monnaies elles-mêmes sont des marchandises dont la valeur s'apprécie sur des marchés financiers et monétaires, et ainsi de suite. Qui sont, d'ailleurs, ces entreprises de marché elles-mêmes sont considérées comme des produits se cotant eux-mêmes sur leur propre... Bon, on veut retrouver les boucles autoréférentielles propres à la gouvernance par les nombres. Or, ce sont des marchandises fictives, c'est-à-dire qu'on ne peut en réalité les traiter, le capitalisme ne peut les traiter comme des produits, qu'en prenant un certain nombre de précautions. On va pouvoir faire comme si mon travail ou votre travail était une marchandise sur un marché, mais pour que cette fiction soit tenable sur le long terme, il faut s'assurer que le travailleur prendra en charge quelque part le temps long de sa vie et, j'allais dire, de sa procréation, la chaîne générationnelle. Donc, ce qui est engagé dans le travail humain, c'est la vie humaine tout entière, qui est un temps long qui n'est pas le même temps que le temps court des échanges. Et donc, pour qu'on puisse faire comme si le travail est une marchandise et l'échanger, eh bien, il faut des dispositifs juridiques qui rendent cette fiction tenable. Et ces dispositifs sont juridiques, sont des fictions juridiques. Et c'est exactement la même chose pour l'environnement, pour faire comme si la nature était simplement un produit à disposition des hommes. On a besoin de règles qui prémunissent contre le risque de son épuisement. Parce que si on la cultive mal, si on... Enfin, on a multiples exemples de surexploitation de la nature qui aboutissent à une disparition pure et simple de la ressource. Alors, et pour la monnaie, bon, enfin, je pourrais également, si on la traite comme une marchandise comme les autres, on a implosion financière, perte de la valeur de la monnaie, et des crises, ce qu'on appelle les crises systémiques. Donc c'est très important de se rappeler, il me semble que c'est un apport fondamental, cette caractérisation des marchandises fictives par Karl Polanyi. Et ça veut dire que il faut tenir bon les bases juridiques de ces fictions. Et si on se met à croire aux fictions, à faire effectivement, à croire vraiment que le travail est comme l'énergie électrique, que ça peut marcher 24 heures sur 24, on branche, on débranche, les contrats zéro heure, un peu, c'est ça, vous voyez. Ça ne marchera pas, ce ne sera pas durable. Et le propre de ces trois marchandises fictives, c'est qu'elles, leur utilisation semble être sans limite. Ou plus exactement, leur utilisation ne se heurte pas aux mêmes limites que l'exploitation des produits fabriqués. Les produits fabriqués, en effet, ne se prêtent qu'à un nombre limité d'usages, au premier rang desquels celui qui a présidé à leur conception. un balai, ça sert à balayer. Alors éventuellement, si vous êtes une sorcière, ça peut vous servir de moyen de transport, remplacer la mobylette, mais il y a un nombre d'usages du balai qui reste malgré tout assez limité. Alors que le travail humain, la nature, la monnaie, ce qui les caractérise, c'est que justement, ça peut servir à tout, si je puis dire. Et puis d'autre part, les produits fabriqués, une fois usés et consommés, il faut en fabriquer de nouveaux, alors que la nature, elle semble avoir une générosité infinie, se reproduire, et puis le papier monnaie, on pense qu'on peut l'imprimer indéfiniment. Donc, les ressources naturelles, humaines ou monétaires, se prêtent à une infinité d'usages et semblent procéder d'un fonds inépuisable. Et cette absence de limites perceptibles à leur exploitation incite à leur surexploitation. Surexploitation de l'écosystème, surexploitation du travail et surexploitation de la croyance dans la valeur de la monnaie. Situation, on a les trois feux rouges là, actuellement, hein, parce que avec des masses monétaires qu'on délivre, on a fabriqué depuis 2008 des masses monétaires gigantesques qui correspondent à aucune richesse réelle. Donc on est dans des situations très préoccupantes. Ça vaut donc aussi pour la monnaie. Dans ce cas-là, la limite ne peut venir que de l'interdit moral ou juridique. L'histoire du roi Midas. Et la création monétaire, qui est aujourd'hui principalement le fait du crédit bancaire, sera limitée par le droit de la banque et de la finance, et l'exploitation des hommes par le droit du travail et celle de la nature par le droit de l'environnement. Si ces interdits sont levés, la surexploitation qui en résulte finit par rencontrer un autre type de limite. Alors, complément à la notion de souveraineté de la limite, c'est la notion de limite catastrophique. C'est-à-dire, cette limite catastrophique, ça va se montrer sous la forme de la catastrophe écologique. Alors, on peut avoir des exemples locaux, par exemple la disparition des terres arables dans des régions surexploitées, mais ça peut être aussi à l'échelle du globe, le réchauffement climatique ou l'extinction de la biodiversité. Catastrophe humanitaire, c'est du type d'accident majeur, révolution, conflit armé, violence en tout genre, et catastrophe monétaire du type de celle de 2008. Et c'est sous cette forme de la catastrophe que s'exprime la souveraineté de la limite. Et l'expérience de la catastrophe entraîne toujours ce que j'ai appelé, à propos des grandes déclarations de l'après-Seconde Guerre mondiale, un sursaut dogmatique, c'est-à-dire une prise de conscience de la nécessité de poser à nouveau frais des interdits pour empêcher la répétition de la catastrophe. Et c'était l'image qui était là. Ce que nous ne devons plus jamais revoir. Ça, c'est ce qu'on appelle un sursaut dogmatique. Ça, c'est 1919. Et entre 44 et 48, vous allez avoir le même phénomène qui se reproduit. Alors, ce que j'appelle sursaut dogmatique, sous un autre vocabulaire, cette idée se trouve déjà présente dans l'œuvre de Giambattista Vico. Je vais parler un peu de Vico parce que c'est un grand juriste. Et comme c'est un grand juriste, c'est aussi un philosophe, un historien, un philologue, un comparatiste. Et il est intéressant parce que c'est l'un des derniers survivants de l'humanisme de la Renaissance. La période humaniste, alors on est tout près de la rue Cujas ici, donc Cujas c'est un bon représentant de ces juristes humanistes de la Renaissance. On est sorti de la scolastique, on n'est pas encore dans le rationalisme qui va arriver à partir de Descartes. Et cette période humaniste est très intéressante parce que les humanistes sont sceptiques, gardent un certain scepticisme à l'égard du caractère absolu des catégories de la raison. Chez Vico, il y a toute une critique de Descartes, notamment. Il dit « Méfions-nous de croire à nos fabrications conceptuelles. Le monde est toujours plus complexe que nous. » Donc il y a une sensibilité propre à ce moment, et Vico est un témoin tardif encore de cela au XVIIIe siècle. Alors, Vico est surtout, c'est un Napolitain, il est surtout connu pour sa thèse de la convertibilité du fait et du vrai. En latin, c'est « verum et factum convertuntur ». Donc, le vrai et le fait sont convertibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Vico, on ne connaît réellement que ce que l'on a fait soi-même. C'est l'expérience qui est à la racine de la vraie connaissance. Donc c'est l'expérience de ce qu'on a fait. C'est pourquoi le travail manuel est un apprentissage de la vérité. Dans le travail manuel, on est confronté directement à la vérité des choses. Et pour le dire autrement, on ne connaît vraiment que ce dont on a fait l'expérience. C'est une idée, c'est une reformulation moderne de cette idée de la convertibilité du vrai et du fait. Et cette idée centrale de l'œuvre de Vico en éclaire une autre qui nous intéresse plus directement ici. C'est celle d'un cours cyclique de l'histoire des institutions. Là, c'est le Vico juriste. Et selon lui, les sociétés humaines passent par ce qu'il appelle les corsi et ricorsi, le cours et recours. Et il emploie le mot recours, d'ailleurs, au sens juridique, hein, mais un recours devant la Providence, comme nous allons le voir. Et selon cette thèse, toutes les sociétés humaines passeraient de la barbarie à la civilisation avant de retourner à la barbarie. C'est ça, les cours et corsi et ricorsi chez Vico. Et on trouve une description saisissante de cet enchaînement à la fin de son ouvrage majeur qui s'appelle « La science nouvelle relative à la nature commune des nations », qui est connue dans son abrégé « Scientia Nova ». La « Scientia Nova », qui date de 1744, a fait l'objet de plusieurs traductions, enfin de deux traductions en français. Il y en a une première qui doit être en une édition de poche par une comtesse de la fin du XVIIIe, dont le nom m'échappe, mais où il y a une très belle introduction de M. Reynaud, très, très éclairante. Puis ça a été retraduit chez Fayard en 2001 par Alain Pons, dans une traduction de plus moderne, de meilleure qualité. Et on trouve donc, à la fin de cet ouvrage, une description de cet enchaînement. L'idée, c'est que dès lors que les individus ne poursuivent plus que leur seule utilité individuelle, les hommes rejettent toute hétéronomie, toute référence commune, qu'elle soit religieuse ou civile et juridique, toute référence qui garantirait à chacun un sens et une place. Et alors, dit Vico, ces gens-là tombent dans ce qu'il appelle une maladie civile. Une maladie civile, une belle expression. Et il la dépeint en ces termes, et on se quittera d'ailleurs cette lecture. Ces peuples, donc ça c'est les peuples qui sont arrivés à un haut niveau de développement, accoutumés comme des bêtes à ne penser à rien d'autre qu'aux propres utilités particulières de chacun, ont atteint le dernier degré des jouissances raffinées, ou, pour mieux dire, de l'orgueil, à la manière des animaux sauvages qui, au moindre des plaisirs, s'offensent et deviennent féroces. Ainsi, au milieu de la plus grande affluence et de la foule des corps, vivent-ils comme des bêtes farouches dans une profonde solitude des sentiments et des volontés, et à peine peut-on en trouver deux qui s'accordent, puisque chacun suit son propre plaisir ou son caprice. Voilà le diagnostic. Je prends... Oui, on va se quitter là-dessus, c'est pas mal. À la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.